Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
De voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Dans la culture d'entreprise, on est jugé vieux, de plus en plus jeune. Passé 50 ans, vous voici déjà senior, trop cher, pas assez performant, pas assez connecté, bref, bon pour la casse. Beaucoup sont poussés vers la sortie, trop vieux pour retrouver un emploi, trop jeune pour la retraite. C'est ce qu'on appelle l'âgisme, la discrimination basée sur l'âge. Malgré son interdiction en France par le Code du travail, un tiers des plus de 60 ans se disent victimes de discrimination professionnelle. Alors comment lutter contre les stéréotypes négatifs de l'âge? En quoi les entreprises ont tout à gagner à valoriser la transmission intergénérationnelle, sachant que c'est bien connu, on est toujours le jeune ou le vieux de l'autre. On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Sociologue, professeur à l'INSEC, spécialiste des enjeux de l'intergénérationnel et de la séniorisation et auteur d'un dernier essai, Et si les vieux aussi, écrit en bleu, sauver la planète. C'est aux éditions Michalon. Vous préférez la notion de vieux que de senior d'ailleurs?
En fait, on est souvent là aussi un peu dans le politiquement correct. Donc parfois, pour pas dire les âges, on va trouver des petits contournements. Je trouve que le mot vieux ou le mot vieille d'ailleurs,
oui,
sont des mots tout à fait intéressants. C'est comme le vintage par exemple. Voilà, on peut trouver des termes. J'ai bu un bon vieux vin par exemple. Je vais le trouver très très agréable. Donc le mot est pas nécessairement. Ça dépend toujours pareil comment on l'utilise, avec quel ton.
Forcément. Ouais. Voilà, on est tous vintage en fait.
On est tous vintage.
À vos côtés, bonjour Romain Petit.
Bonjour.
Vous êtes consultant au cabinet Alternego qui accompagne des entreprises pour justement développer un management de l'inclusion et des diversités, ça en fait partie. Vous, j'ai vu que sur vos réseaux, vous vous présentez comme consultant junior. J'aimais bien ce concept, cette étiquette de junior.
Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a la seniorité en termes d'expérience, notamment dans le conseil. On utilise les termes junior et senior pour parler d'expérience. Et ensuite, il y a ce qui a trait à l'âge, la juniorité dans l'âge ou la seniorité dans l'âge. Donc là, junior, pour le nom de l'intitulé de mon poste, ça concerne vraiment mon expérience professionnelle.
Ben voilà, plein de concepts, hein. Junior, vintage, senior, d'ici une quinzaine.
Et le mot expérience.
Et le mot expérience.
C'est extrêmement important. Ouais.
D'ici une quinzaine de minutes, nous serons en ligne avec Juliette Pietraszewski, c'est la correspondante de RFI en Malaisie, un pays plutôt jeune là-bas, mais qui se prépare déjà, vous le verrez, au défi de la transition démographique. Et puis en fin d'émission, tout est possible. C'est la devise d'Alex Alétru, un pilote de motocross qui est devenu le premier athlète paraplégique à participer à l'Enduropale. C'est une célèbre course sur sable au Touquet dans le nord de la France. Portrait signé Charlie Dupiot. Puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous si vous avez été victime de discrimination au travail à cause de votre âge, que vous soyez d'ailleurs trop jeune, jugé trop jeune ou trop vieux. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins. C'est sur RFI.
Je vais vous poser une de nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Vous vous voyez où dans 10 ans?
À 80 ans. Bonjour, Ben Whittaker, j'ai rendez-vous avec Madame Austin.
Je croyais qu'elle devait voir son nouveau stagiaire.
C'est moi.
Quel âge avez-vous?
70. Et vous?
J'ai 24 ans. Je sais, je fais plus vieille, c'est le travail qui vous vieillit. Ce qui n'est pas de chance dans votre cas. Pardon.
Bonjour Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire.
Ravi que vous trouviez ça amusant aussi.
Mieux vaut en rire.
Eh bien, vous voilà coincé avec moi.
Parfait, ça me plaît.
Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous.
Pour la porte, ouverte ou fermée?
Peu importe. Non, en fait, ouverte. Vous allez vous habituer.
Avec plaisir.
Regardez, elle arrive.
Hé, hey, Becky, t'es super jolie avec ce... Oh, combien de temps une femme peut t'en vouloir?
J'imagine que tu lui as parlé pour t'excuser.
Je lui ai envoyé un mail, j'ai écrit désolé, avec genre une tonne de hé. Ça devait donner désolé, avec le petit smiley triste, celui où il pleure.
Nos investisseurs pensent qu'un PDG aguerri pourrait te soulager efficacement.
Eh ben, trouve-moi des cours de PDG.
Elle essaie juste de satisfaire tout le monde. La pression est inimaginable. Vous avez ouvert cette boîte toute seule il y a un an et demi. N'oubliez pas qui a fait ça.
En vérité, quelque chose en vous m'apaise ou me redonne un certain équilibre. Et j'en ai besoin, ça crève les yeux. Comment, en une seule génération, les hommes sont-ils passés de types comme Jack Nicholson ou Harrison Ford à...
Eh ben.
On n'a pas l'image, mais bon, effectivement, les trentenaires juniors de cette boîte de mode ne ressemblent plus forcément aux beaux anciens. Alors ça, c'était la bande-annonce d'un film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro, vous l'avez bien compris, qui joue le rôle d'un stagiaire de 70 balais, 70 ans, et qui regardait travers par les trentenaires, sauf qu'à un moment donné, il se dit, bah, tiens, finalement, il a l'expérience. Alors ça, c'est au cinéma, c'est de la comédie, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Serge Guérin, d'où vient d'ailleurs ce concept d'agisme? Comment le définir d'ailleurs?
Comme vous l'aviez dit au tout début, l'agisme, c'est finalement une forme de racisme qui est de regarder les gens, alors non pas en fonction de la religion, de la couleur de peau, que sais-je encore, mais en fonction de l'âge. Ça peut être l'âge très jeune, il est trop jeune pour, ou elle est trop vieille pour. Et finalement, pendant très longtemps, on nous dit « t'es trop jeune pour faire ça », puis un jour, on nous dit « t'es trop vieux pour le faire ». Et hop, et on est enfermé.
Et finalement, c'est...
Oui, on enferme les gens sans prendre en compte la personnalité, l'expérience, la spécificité. Il y a des métiers, il y a des activités où l'âge peut être en effet un argument très très fort, puis d'autres où c'est pas vraiment le sujet. Si c'est un travail de force, on peut se dire qu'en effet, à 75 ans, c'est pas évident de faire telle ou telle activité physique très très rude. Et encore, on peut aussi, ça dépend de la personne, si elle est entraînée, et ainsi de suite. Et à d'autres, en revanche, on peut se dire, il faut qu'elle tente de prendre, par exemple, de l'expérience. Donc, ça enfermait les gens dans un critère qui est celui de l'âge.
Dans des critères et des stéréotypes. Alors, vous, ce qui est intéressant, Romain Petit, c'est que vous travaillez énormément avec des entreprises, justement. Vous aviez mené une étude avec différents managers. D'ailleurs, à quel moment les managers, est-ce qu'ils utilisent le concept de senior ou est-ce qu'ils parlent de seconde partie de carrière? À quel moment ils se disent, bah, tiens, tel salarié est considéré senior, en fait?
Alors, c'est une bonne question. Déjà, un petit mot sur l'étude.
Oui.
C'était une étude inter-entreprise qui a été menée auprès de 10 entreprises partenaires et auxquelles on a récolté 10 000 réponses. Un peu plus de 10 000 réponses. Mmh. Alors, la question, justement, de la dénomination hein, senior ou seconde partie de carrière, c'est un premier résultat assez intéressant qu'on a obtenu à travers une première étape de notre méthodologie, c'est-à-dire qu'on a demandé directement aux entreprises participantes de nous dire à partir de quel âge ils considèrent leurs salariés comme seniors.
Et alors?
Et justement,
on a des disparités. Varier. Oui, forcément.
Voilà.
Et donc
on a des disparités en fonction des secteurs. Par exemple, dans le conseil, connu pour être un secteur assez jeuniste, la seniorité commence à partir de 45 ans, tandis que dans d'autres secteurs, on est plus autour des 50-55 ans. Et donc, justement, cette utilisation du terme senior pour les entreprises où la moyenne d'âge est la plus basse pouvait paraître comme assez stigmatisant. Donc, on a privilégié l'utilisation du terme seconde partie de carrière.
Seconde partie de carrière. Alors là, on est dans le politiquement correct, comme le dit d'ailleurs Serge Guérin, quelque part. Quand on parle de discrimination liée à l'âge, hein, on sait qu'en France, en droit du travail, il y a une loi pour ça qui pénalise ces discriminations. Sauf qu'avant d'expliciter ces différentes formes de racisme, entre guillemets, encore faut-il le prouver. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'une blague un peu déplacée, c'est pas la même chose que de dire « bah non, toi, tu vas pas progresser parce que t'es trop vieux ». Comment prouver, en fait, cette discrimination?
Oui, ça. Puis on a le droit quand même de rire aussi, de sourire, oui, ainsi de suite. Voilà. Mais c'est vrai, je me souviens, dans une enquête, quelqu'un m'avait dit, moi, il avait 53 ans, il me disait tous les matins, quand j'arrive, on me dit « alors papy, c'est quand la retraite ?»
Ah oui.
Évidemment, au bout d'un moment, il a eu envie de partir en retraite. Parce que là, du coup, il aurait été un jeune retraité, alors que là, il était traité de vieux salarié. On le voyait que en fonction de son âge, et plus du tout en fonction de son apport. S'il était là, c'est qu'il contribuait à l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a cet élément-là comme ça. C'est vrai qu'on peut difficilement le prouver. Alors, souvent, c'est très, très visible quand les gens recherchent de l'emploi. On ne va pas le dire. Alors, on parle parfois de CV anonyme, mais on voit bien quelle année vous avez eu tel ou tel diplôme.
Puis même si on ne met pas l'âge, ça devient un petit peu suspect, non?
Oui, en plus, on va regarder. Et puis si vous avez eu le bac, je ne sais pas, en 1977, on peut à peu près faire le calcul.
Ouais.
Voilà, donc du coup, on va voir, ah oui. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est... Mais on ne pourra pas dire, jamais quelqu'un va répondre en disant « vous êtes trop âgé ». Quoique, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « mais on me l'a dit tel que vous êtes déjà senior ». Je me souviens d'une personne qui avait 45 ans, qui en avait dit « vous êtes déjà senior ». Elle avait été un peu choquée. Je lui dis, mais avant, vous ne l'aviez pas dit parfois à d'autres? Elle dit, bah oui.
Mmh. Ah, donc c'est aussi ça. La roue tourne.
Et la roue tourne, exactement. Mmh. Ah, donc du coup, difficile à prouver, parce que évidemment, les managers savent le faire, les directeurs de ressources humaines savent un petit peu contourner les choses, mais n'empêche qu'on le sait aujourd'hui, dans un pays comme la France, quand vous allez dépasser la cinquantaine, la tentation, c'est de dire, il est trop vieux.
Mmh.
Avec dans l'idée aussi que, de toute façon, il va bientôt partir. Ce qui est idiot d'ailleurs.
Donc pourquoi investir en fait?
Exactement, pourquoi investir alors qu'on va se dire qu'il faut investir beaucoup parce que les technologies, il ne doit pas être très à l'aise.
Ça.
Il faut investir beaucoup alors que bientôt il va partir. Les deux sont faux. Si vous avez 50 ans, si vous n'êtes pas au courant qu'on a créé Internet et qu'il y a des ordinateurs, c'est que vous avez vécu, je ne sais pas où moi, dans une cave.
Ouais.
Voilà. Donc, et puis par ailleurs, quand vous retrouvez un boulot à ces âges-là, vous y restez. Parce que vous savez que si vous ressortez, vous allez avoir du mal à trouver. Et finalement, de ce point de vue-là, les jeunes, alors les jeunes diplômés, ça dépend aussi des jeunes, mais des jeunes diplômés, bon, évidemment, avec Internet et tout ça, ils sont à l'aise, mais parfois, c'est pas parce qu'ils sont hyper bons sur les jeux vidéo qu'ils sont nécessairement si bons que ça sur tel ou tel logiciel.
Excel.
Voilà, donc il y a aussi cet élément-là à prendre en compte. Et puis, en revanche, ils peuvent être beaucoup moins fidèles, parce que plus facilement, ils peuvent se dire, je vais quitter l'entreprise parce que j'en trouverai une autre assez facilement. Donc, mais il ne s'agit pas non plus de dire, ah, tous les jeunes ne vont pas travailler ou quoi que ce soit. Mais on voit bien que c'est plus à nuancer que cela.
Ouais, plus de nuances. Je vous voyais aussi la tête, Romain Petit, en écoutant Serge Guérin. Les préjugés négatifs liés à l'âge, alors le premier qui arrive tout de suite, c'est voilà, ils ne sont pas du tout compétents en informatique, la fameuse fracture numérique, ils ne savent pas s'adapter à ces nouveaux outils. Ça, vous l'avez observé aussi ?
Oui, effectivement, c'est un stéréotype assez tenace de se dire que les seniors ont des difficultés avec les nouvelles technologies. Et on peut raisonner aussi en termes d'impact. Finalement, si on adhère à ce stéréotype, ça crée aussi des réalités. Finalement, c'est ce qu'on appelle un processus de prophétie autoréalisatrice. Et ça peut avoir justement des impacts lourds en termes d'évolution de carrière. Et les stéréotypes qui font partie de notre fonctionnement normal dans le cerveau, peuvent mener, s'ils ne sont pas apprivoisés, à de la discrimination, et notamment agistes.
C'est pas un phénomène strictement occidental. On en parle beaucoup en France, en Europe aussi, paradoxalement dans des sociétés de plus en plus vieillissantes, où justement il va falloir travailler de plus en plus longtemps. Il y a un côté totalement paradoxal, non ?
Absolument. Jamais notre espérance de vie n'a été aussi longue, jamais notre espérance de vie en bonne santé a été aussi longue et jamais l'espérance de vie professionnelle a été réduite. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique, y compris d'ailleurs dans un pays comme la France, pour le financement des systèmes de retraite. Il faut aussi que les gens ne soient pas trop longtemps non plus à la retraite, sinon c'est infinançable. Donc c'est vrai, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui reste très très fort. Et vous aviez raison quand vous dites que c'est très ancré. La première étude que j'avais trouvée, c'était en 1977. Deux sociologues déjà pour la Harvard Business Review, donc aux États-Unis. Et déjà, quand ils demandaient aux dirigeants d'entreprise, ce qui sortait en premier, c'est ils ne sont pas à l'aise avec les technologies, les seniors ne sont pas à l'aise.
Déjà en 77.
Et deux, ils ne savent pas travailler avec des gens plus jeunes et ils n'ont pas une mentalité de travail. Et il y a un problème de productivité. Tout ça, quand on regarde, c'est totalement faux. Mais c'est vrai que
c'est la culture de la performance, de toute façon, incarnée par la jeunesse. Ça n'a pas trop changé.
Le jeune doit être, et par nature, je dirais, plus performant. Ce qui est très, très discutable. Où le jeune a une productivité qui est plus forte. Alors, évidemment, si c'est des questions physiques, par exemple, courir le 100 mètres, il y a des chances qu'à 20 ans, on court plus vite le 100 mètres qu'à 75 ans.
Oui.
Mais sur du vélo, c'est moins net, par exemple.
Ça dépend aussi des personnes. Parce qu'il est cycliste.
Oui,
c'est vrai. Dépasse les jeunes, en fait.
Exactement. Voilà, pour le coup, c'est vrai. Mais c'est surtout que ça dépend de l'entraînement. Si la personne s'y met à 75 ans, il y a peu de chances qu'elle soit aussi véloce.
Évidemment.
Mais si en revanche, elle a gardé, ainsi de suite. Mais c'est vrai que ces stéréotypes sont très forts. Et on les retrouve en France, en Europe, aux États-Unis, mais par exemple, même un pays comme l'Afrique, enfin un pays, pardon, un continent, donc des continents avec plein de gens, par exemple, on ressort souvent une formule qui est magnifique du poète Hampa Teba. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est magnifique. Et c'est très beau. Mais pour autant, ce n'est pas nécessairement partagé par l'ensemble des Africains ou ce n'est pas partagé par l'ensemble des entreprises africaines. Donc c'est vrai que finalement, un peu partout dans le monde, s'il y a peu de seniors, on va avoir dans l'idée, ça peut être des gens qui ont une forme de sagesse. Mais pourquoi le senior devrait être sage?
Oui, d'abord, allez, soyons fous. Vous nous direz tout à l'heure, Romain Petit, en quoi ça bouge quand même dans les cultures d'entreprise que vous côtoyez. On se retrouve dans quelques instants après Emma Peters, c'est Multicolore sur RFI.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas. Tu la vois comme ça, en multicolore, de plus en plus fort. Montre-leur et va dehors, t'es multicolore. Multicolore, de plus en plus fort. Montre-leur et va dehors. autour de toi, ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Multicolore sur RFI, c'est Emma Peters. Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle de l'âgisme, cette discrimination basée sur l'âge, en quoi les entreprises ont tout à gagner à valoriser la transmission générationnelle, intergénérationnelle. On en cause avec nos invités, le sociologue Serge Guérin et le consultant en cabinet Alter Ego Romain Petit. Et nous avons un premier appel au 33 7 64 45 51 41. C'est Jules qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous, vous êtes entrepreneur. J'ai vu que vous aviez créé beaucoup d'entreprises et notamment Senior Africa. Racontez-nous en quoi consiste cette structure Senior Africa.
Senior Africa, madame, je vous remercie de vous intéresser à cette structure. C'est une association de seniors.
Oui.
Dont la création tient à une simple idée. C'est la valorisation de l'expertise
oui.
des retraités. Parce qu'il est inconcevable qu'après 30 ans de travail, d'accumulation d'expérience et de compétences, on parte à la retraite et puis qu'on aille s'asseoir au village.
Oui.
J'estime que c'est une perte pour nos pays africains, pour le monde entier, pas pour nos pays africains seulement.
Oui.
C'est une perte de valeur, c'est une perte d'expérience.
Bien sûr.
Comment faire pour que ces gens qui, par les progrès de la médecine, ont encore une vie saine et sont robustes. Comment faire donc pour que ces personnes-là puissent être utiles à la société ?
Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, Jules, pour revenir à Senior Africa, c'est que cette structure, elle propose un personnel des retraités de 60 à 80 ans pour aller travailler, c'est ça, pour faire des missions de courte durée.
Des missions ponctuelles.
Voilà, ponctuelles. Alors, quel genre de mission ? Et est-ce que les entreprises, elles jouent le jeu et elles acceptent ?
Toutes sortes de missions,
oui.
Des missions de formation, des missions de règlement d'un problème spécifique dans l'entreprise.
Mmh.
On ne peut pas embaucher quelqu'un à plein temps. On demande un senior qui a une expérience avérée dans le domaine qui pose problème.
Oui,
et
oui.
On l'engage pour 3 mois, pour 6 mois. Il vient régler le problème.
C'est bien.
Et puis ensuite, s'en va.
Ouais. Et vous-même, vous avez 73 ans.
Tout à fait, madame.
Bravo. Et vous travaillez encore ?
Bien sûr que je travaille encore. J'ai plusieurs entreprises dans lesquelles je travaille. Comme je vous dis, j'estime que tant que nous avons la force par les progrès de la médecine, tant qu'on a la force,
bien sûr.
Il vaut mieux la mettre au service de la nation.
Bien
c'est ce
sûr.
Que nous faisons.
Écoutez, en tout cas, bravo. Respect, moi j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez peut-être réagir au témoignage de notre auditeur d'Abidjan, Jules, Serge Guérin
Oui, moi je trouve ça génial, c'est hyper important. Monsieur a parfaitement raison. C'est pas parce qu'on l'a dépassé. Vous savez, l'être humain, c'est pas un yaourt. il n'y a pas une date de péremption. Périmé, ouais. Voilà. On n'est pas, voilà. On peut continuer toute sa vie. Voilà. Et si on a envie, et en plus, après, c'est aussi, il faut pouvoir choisir. Mm. Mais si on a envie, pourquoi ne pas continuer à travailler, à apporter aux autres et à soi, ça fait aussi du bien. Et donc, ce monsieur a parfaitement raison. Et on a de l'expérience, on a de l'envie, du désir, et on ne prend pas la place d'autres personnes. De toute façon, il y a tellement de besoins que ce n'est vraiment pas gênant de ce point de vue-là.
Tout à fait d'accord.
Et ben en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage.
Si je viens à Abidjan, je viens vous voir tout de suite.
Ah ben voilà, notre invité...
Je vous attends.
Ah. D'accord, super.
En tout cas, on sent l'énergie, hein, c'est ça qui est chouette. Merci beaucoup pour votre très joli témoignage, Jules, du côté d'Abidjan. Je me tourne vers vous, Romain Petit. C'est intéressant ce que dit cet auditeur, la notion de transmission des savoirs. Voilà, on a des compétences, on peut les transmettre. Et vous, vous aviez mené une étude, justement, auprès de plusieurs... voilà. Salariés, dits seniors, autres, qui sont à fond, eux aussi, dans l'envie de transmettre.
Oui, exactement. On a près de 90% des répondants au questionnaire qu'on nous avons diffusé auprès de nos 10 entreprises participantes, qui sont managers ou non-managers, hein, qui nous disent vouloir transmettre ce qu'ils ont appris de leur métier, donc leurs compétences, mais aussi leur culture d'entreprise. Aux nouvelles générations notamment, ou aux nouveaux entrants dans l'entreprise.
Mais c'est ce qu'on appelait avant les pygmalions, le tutorat, qui revient un petit peu en force quand même, non ?
Ah, c'est sûr que oui, dans le même temps, hein, d'une manière assez cohérente, les actions qui sont les plus sollicitées, c'est aussi les actions de transmission du savoir, notamment donc, le mentoring, le tutorat pour les plus jeunes générations, mais également ce qu'on appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire à travers, en valorisant son expérience professionnelle, on dégage du temps de travail aux salariés, et ça lui permet de s'investir, de mettre en application ses compétences, notamment dans des missions associatives.
Ouais, tout à l'heure, Serge Gadrin, vous parliez de cette discrimination de l'âge qui va mettre en parallèle avec le racisme ou le sexisme. On sait aussi que dans l'âgisme sont les femmes quand même plus âgées qui, la double peine, sont particulièrement touchées aussi par l'âgisme, notamment en entreprise.
Alors, c'est vrai que dans la société, d'une manière globale, y compris parce qu'on... On centre beaucoup les choses sur le physique, en particulier dans les cultures du Sud, je dirais. Mm. On n'a pas du tout ces problématiques-là, je ne sais pas moi, en Norvège, dans les pays nordiques.
Ah bon ?
Parce que, je ne sais pas, faire du volley-ball à 75 ans, une dame en short, personne n'est choqué. Mm. Alors que nous, on va dire, quand même, ça ne se fait pas à cet âge-là, il ne faut pas trop se montrer, ainsi de suite. Donc il y a aussi des représentations qui sont différentes et qui, évidemment, restent ou se renforcent même parfois dans l'entreprise. Là encore, si on regarde la question de l'expérience, femme ou homme n'a aucune importance. Mmh. Mais si on s'intéresse autrement, évidemment, très vite, ça peut aussi ressortir. Ce qui est d'ailleurs totalement paradoxal, parce qu'une certaine manière, une femme est nécessairement plus jeune qu'un homme si on inverse les choses. Plutôt que regarder le jour où on est né, on regarde le jour où on va disparaître. Or, comme les femmes vivent en moyenne 6 ans de plus, elles sont toute leur vie 6 ans de moins que les hommes.
Oui, enfin bon, on n'a pas une date exacte de la sortie.
Non, bien sûr. Mais si on pense les choses autrement comme ça, finalement... On pourrait dire que les femmes sont plus résistantes que les hommes, d'une certaine manière. Donc elles vivent plus longtemps. Ouais, et j'atteste. En tout cas, vous attestez. Et donc, du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là aussi, c'est complètement, c'est évidemment complètement idiot. Puis il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est que pour une entreprise, il y a aussi quelque chose d'important, c'est de ressembler un peu au marché, de ressembler un peu à la société.
Bah, d'où l'inclusion, la diversité. Je pense que ce sont les thématiques maintenant, les problématiques.
Si on reste sur l'âge, plus on vieillit, plus la société vieillit, plus il y a une certaine logique à ce qu'il y ait des gens qui soient plus âgés dans les entreprises. Mmh. On ne peut pas demander à que des gens de 25 ans de s'intéresser, entre autres, à des gens, je ne sais pas moi, qui auraient plus de 60 ans. Et si on prend le fait que plus on vieillit, plus il y a de femmes et moins il y a d'hommes, d'autant plus, il est important qu'il y ait des femmes plus âgées au sein des entreprises.
Vous avez l'impression, vous, qui les côtoyez, ces managers, dans les cultures d'entreprise, ça bouge un peu aussi chez les DRH, les directions de ressources humaines aussi, qui ont une certaine responsabilité, ou pas cette fameuse question de l'inclusion et des diversités dont fait partie l'âge.
Déjà, avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a déjà cet enjeu des entreprises à recruter. On est sur des difficultés à recruter et en plus on mise surtout sur les jeunes générations. Donc pourquoi pas miser surtout avec cet allongement de la durée des carrières sur des personnes qui sont déjà en poste et qui ont de l'expérience. Donc ça c'est un premier enjeu et surtout que comme vous le disiez très bien, pour attirer des talents il faut aussi leur ressembler. Donc il y a un enjeu aussi de ce qu'on appelle la marque employeur pour attirer des talents et aussi les fidéliser. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de la part de nos clients sur les sujets d'intergénérationnel et donc qui mêlent la notion de l'âge. Et nous, on a à cœur de ne pas essentialiser, de ne pas catégoriser chaque génération en se disant, bah, par exemple, les baby-boomers sont comme ça, les personnes issues de la génération Y sont comme ça. On considère que, justement, pour réduire l'impact de nos stéréotypes sur nos prises de décision, sur nos comportements, il faut considérer chaque individu comme un individu unique et se centrer sur la compétence.
C'est pour ça que vous le dites aussi dans votre ouvrage, Serge Guérin, hein, que je répète, et si les vieux aussi sauvaient la planète, où vous évoquez, on en parlera peut-être tout à l'heure, de cette transition à la fois écologique et démographique, mais il y a aussi des métiers à réinventer, des métiers du care, du soin, du prendre soin à la personne aussi, à revaloriser aussi. Voilà, on est aussi dans ce futur-là aussi, enfin, qui commence déjà maintenant d'ailleurs. Hein.
Vous avez parfaitement raison, que ce soit d'ailleurs pour la planète Terre, ou pour que ce soit les êtres humains fragiles, des deux côtés, il y a la fragilité. Et donc il faut prendre du temps avec les personnes, on ne peut pas aller très vite. Moi je crois que même qu'il faut travailler plus longtemps, et même plus d'heures, mais peut-être plus lentement.
Tout le monde n'a pas envie de travailler plus longtemps non plus,
bien sûr,
Serge Guérin.
Oui, mais après, il y a aussi une question... oui, bien sûr.
En France, on va pas en...
Mais il y a quand même aussi une problématique économique. Ouais. Si tout le monde arrête de travailler, ou si on ne veut pas travailler longtemps, comment on cotise et comment on finance aussi la protection sociale. Monsieur disait tout à l'heure, en intervenant à Abidjan, les progrès de la santé, et ainsi de suite. Donc, il faut aussi y penser. Mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y a besoin aussi qu'il y ait plus de personnes dans les métiers d'accompagnement, dans les métiers de santé, dans les métiers du care. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est un petit peu l'inverse que dans d'autres secteurs. Il y a parfois, dans certains secteurs, 98% de femmes et seulement 2% d'hommes. Ouais. Donc il y a aussi des questions d'inverser les choses. Quoi.
Ouais. Et on a besoin là-dessus de jeunes. C'est des métiers valorisés et moins payés, hein, forcément.
Souvent, il y a aussi des métiers où on va considérer que c'est fait pour les femmes, parce que c'est l'attention et tout ça. Et c'est pas, évidemment, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc c'est aussi... Et là-dedans, il y a besoin de gens jeunes, mais il y a aussi besoin... Ce n'est pas facile de travailler avec des gens très fragiles, de travailler avec des gens qui sont en train de mourir, ainsi de suite. Il y a aussi besoin de gens plus âgés, parce qu'il y a du recul, parce qu'il y a de l'expérience, et donc il y a aussi besoin de ce partage. D'ailleurs, pour reprendre ce que disait M. Petit tout à l'heure, c'est aussi que, finalement, le tutorat, c'est des gens âgés qui vont apprendre à des jeunes, mais c'est aussi des jeunes qui vont apprendre d'autres choses à des plus âgés. Et finalement, il y a une réciprocité, y compris dans l'entreprise, qu'on ne connaissait pas avant. Parce que, si je prends l'exemple tout bête des technologies, vous avez 20 ans, vous êtes souvent plus à l'aise, y compris parce qu'il y a un nouveau logiciel qui est sorti. Et donc, du coup, le salarié plus âgé, il est bien content que le plus jeune lui explique un peu comment ça marche. Mais le plus jeune est bien content que le plus âgé lui explique à quoi ça va servir.
C'est ça.
Vous voyez, c'est un petit peu ça le partage.
Ouais. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour et de savoir comment ça se passe du côté de la Malaisie.
8 milliards de voisins.
Parce que les pays les plus éloignés aujourd'hui, nous sommes des voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
Alors en Malaisie, les plus de 65 ans représentent seulement 7% de la population, mais ce pourcentage va augmenter dans les prochaines années. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante en Malaisie, Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Alors Juliette, la Malaisie anticipe déjà ce qu'on appelle la transition démographique.
Oui, si bien qu'en 2040, le paysage démographique de la Malaisie arrivera à équilibrer la part des jeunes avec la part des plus âgés. De quoi marquer quelque part une transition vers une société vieillissante. Petite précision en termes de définition, Laurence, les Malaisiens désignent les personnes de 65 ans et plus comme faisant partie de sa population âgée. Alors, ces projections poussent aussi des experts en économie à alerter sur plusieurs faits en Malaisie, à savoir le besoin de s'adapter à cette population âgée qui va grandir. Il faut adopter davantage de programmes publics pour aider les personnes âgées, peut-on lire dans la presse malaisienne par exemple. On parle notamment d'aide financière.
Alors, si vous parlez d'aide financière, Juliette, ça veut dire quoi? Qu'il y a de nombreuses personnes âgées qui vivent dans la pauvreté en Malaisie?
Oui, exactement, Laurence. En fait, selon l'Institut malaisien de recherche sur le vieillissement et selon une enquête menée en 2019, 31% des personnes âgées sondées appartenaient à des ménages pauvres. L'étude se basait en fait sur leurs revenus, leurs dépenses. Pour donner un peu plus de contexte, en Malaisie, le seuil national de pauvreté en 2022 était estimé à environ 500 euros ou moins par mois en termes de revenus. Un revenu mensuel de moins de 235 euros par ailleurs constitue une pauvreté extrême en Malaisie. Certains cabinets ou groupes de réflexion comme Emir Research estiment que pour relever les défis du vieillissement de la population, la Malaisie pourrait envisager un ajustement de l'âge de la retraite en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie dans le pays. Selon eux, le but serait d'augmenter progressivement l'âge de la retraite qui est actuellement de 60 ans ici.
Alors au-delà de ce constat, Juliette, est-ce qu'il y a une multiplication de maisons de retraite de luxe en Malaisie, notamment pour répondre à cette fameuse augmentation de la population âgée?
Oui, et ce qu'on peut dire, c'est que le marketing est soigné. Certaines enseignes refusent même le terme de maison de retraite et préfèrent parler d'hôtels de luxe pour les plus âgés. À disposition, Laurence, des appartements privés ou partagés, ça dépend. Des salles pour déjeuner avec des plats plutôt très bien cuisinés, des salles de karaoké, de cinéma, de sport, des piscines, des saunas même, des activités artistiques et un suivi médical en fonction des clients et de leur structure. Pas besoin par ailleurs de se soucier de la lessive, du ménage, puisque tout est inclus dans votre forfait. Les résidents peuvent même choisir de rester sur un temps court, quelques semaines notamment, lorsque leurs enfants sont en déplacement temporaire, par exemple, et ne peuvent pas s'occuper de leurs parents. Vous l'aurez compris, Laurent, ce ne sont pas les personnes âgées précaires dont on parlait tout à l'heure qui peuvent s'offrir de telles résidences. Ce sont en effet des profils plutôt d'anciens CSP+.
Voilà, et pour terminer, est-ce que ce recours d'ailleurs aux maisons de retraite en Malaisie, c'est courant d'un point de vue culturel ?
Actuellement en Malaisie, il existe 1400 maisons de retraite privées, mais dans le pays, il est plus courant que les membres d'une même famille vivent ensemble, sous le même toit. Mais ces conditions de vie pourraient bien changer avec une population vieillissante, plus aisée. Dr Raman Jayasingam, PDG directeur des services de santé chez Pacific Senior Living, a ouvert Acacia, c'est une résidence située dans un ancien hôtel dans l'état malaisien de Selangor, et il compte bien tirer son épingle du jeu, explique-t-il.
La population malaisienne actuelle est estimée aujourd'hui à environ 32,4 millions de personnes. 15% seront âgés d'ici 2030. Ça représente 4,5 millions d'individus. Je pense vraiment que beaucoup d'investisseurs à l'avenir vont reconnaître l'importance d'investir dans ce domaine et utiliser ce phénomène à leur avantage. Mais on a aussi besoin de personnel motivé, passionné pour travailler avec nos aînés. Tout le monde ne peut pas le faire.
Enfin, Laurence, dernier facteur à prendre en compte dans cette histoire, c'est que les résidents venant de ces structures sont parfois étrangers, même souvent d'ailleurs, preuve que les maisons de retraite de luxe ne visent pas seulement le public malaisien.
Merci beaucoup Juliette Pietraszewski, la correspondante de RFI en Malaisie. Serge Guérin, je vous voyais regarder, écouter plutôt notre correspondante. Bah, on parle du défi de la transition démographique, écologique aussi, pour reprendre votre ouvrage, aussi bien en Malaisie, en Europe ou ailleurs. Ça passera forcément aussi par réinventer des métiers, on en parlait tout à l'heure, réinventer aussi des habitats et changer de regard avant tout sur l'agisme, parce que finalement c'est pas qu'un débat professionnel mais totalement culturel en fait.
Vous avez parfaitement raison, c'est vrai que le premier sujet c'est le regard, mais d'une certaine manière la quantité fait qualité. Quand il y a plein de gens, quand il y a peu de gens, on peut passer à côté. Mais quand vous avez, alors là pour la Malaisie, on va passer de 7% à 21%, disait-elle, en France on est déjà à 21% de personnes qui ont plus de 65 ans. Donc quoi que vous fassiez, ils sont là. Mmh. Et donc c'est une proportion importante et elle va croître. Voilà, donc dans les années qui arrivent, il y aura plus de plus de 65 ans que de moins de 20 ans en France. Voilà, donc toutes ces problématiques sont là, très présentes. Et comment on invente quelque chose qui corresponde à la fois à la question économique et qui correspondent aussi aux attentes de ces personnes, sachant qu'entre 65 ans et 85 ans, ce n'est pas tout à fait les mêmes situations. Ouais. Donc il y a la question des métiers, parce que vous pouvez inventer tous les systèmes que vous voulez, s'il n'y a personne pour aller travailler dans le secteur, ça va être un peu compliqué. Mm-hmm. On peut inventer comment les gens, y compris les seniors eux-mêmes, participent de l'aventure, d'une certaine manière, et puis c'est inventer des nouvelles formes d'habitat. Il y a ce qu'on appelle en France les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées, qui n'ont pas une très très bonne image.
Dans ce moment, c'est moins compliqué,
qui en même temps sont là, et bien là, et il y en a besoin. Quand vous avez une maladie neurologique en particulier, c'est très difficile d'accompagner quelqu'un qui est en très très grande difficulté par rapport à cela. Bah, donc il y a besoin de cela, mais il y a aussi besoin d'autres formes d'habitat. Mais toujours en s'intéressant à dire, attention, à un moment ou à un autre, peut-être que les gens vont vraiment perdre de l'autonomie et comment on va les accompagner. Mais avant, il y a plein de choses qui peuvent se faire, et ça participe aussi de la vie locale. Des vieux, des gens âgés, des seniors, des aînés, on prendra le terme que l'on a envie, ces personnes-là, elles contribuent aussi à l'activité économique, elles contribuent à l'activité sociale, pas seulement dans l'entreprise. Par exemple, des retraités, c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont hyper actifs dans les associations. Un tiers des élus dans nos communes sont des retraités.
Les retraités ou les vieux ou les âgés ou les seniors, qui valorisent des richesses. Ça, vous sentez que c'est quelque part ça bouge dans certaines cultures d'entreprise françaises ou pas, Romain Petit?
Alors, on a un bon exemple de bonne pratique pour valoriser justement l'expérience, accorder une place plus grande à l'expérience de ceux qu'on appelle les seniors en entreprise, notamment à travers le fait de réduire le temps de travail de salariés qui ont, par exemple, 50 ans ou plus, et qui vont pouvoir, dans la logique d'un mécénat de compétences, ou de se positionner comme des espèces de bibliothèques vivantes de leur entreprise, accorder du coup du temps de travail sur le fait de avoir justement se positionner en relais de la culture d'entreprise, et ça peut passer notamment par le fait d'écrire des livres sur la culture d'entreprise, de participer à des séminaires pour présenter justement aux nouveaux entrants dans l'entreprise quelle est la culture de cette entreprise-là et d'une manière incarnée. Et ça a des impacts très positifs sur la qualité de vie et les conditions de travail pour tout le monde, non pas que pour les seniors en question, mais aussi pour les nouveaux entrants, avec un enjeu d'intégration qui est largement.
Et en finir peut-être avec le fait que quand on parle des talents, on parle des jeunes talents, mais pas des vieux talents en fait. Hein, si, en parlant de concept et de vocable.
Dans un bouquin que j'avais fait avec un collègue.
Il y a très longtemps,
en effet, on avait parlé des seniors à haut potentiel. Puisqu'on parle toujours des jeunes à haut potentiel. Mais quelqu'un, sauf que la différence. C'est le haut potentiel d'avenir, mais là, le senior, il a déjà fait ses preuves. Ouais. C'est-à-dire, tiens, il a réussi à faire ça, peut-être qu'il pourra aussi faire ça. Alors que le jeune, évidemment, c'est plus un pari, bien sûr. On s'était amusé avec ça en disant, mais hey, quelqu'un qui a déjà bossé depuis 30 ans, 40 ans, peut-être qu'on peut se dire, il est capable de monter telle activité ou telle chose. Et souvent, d'ailleurs, il se dit, ça va être un peu mon dernier défi, quoi. Donc, et puis, imaginons que ça se passe mal. C'est pas grave, ça va pas nuire à sa carrière, puisque c'est un peu au bout de la carrière. Donc, c'est aussi se dire, c'est peut-être l'occasion de prendre un peu un risque supplémentaire.
Sachant que l'agisme commence de plus en plus jeune aussi, mine de rien. Hein. Voilà, j'espère que tous ces messages seront bien passés, en tout cas aussi pour les managers, les entreprises, et puis forcément pour nos auditeurs qui en ont marre d'être stigmatisés aussi par leur âge. Merci beaucoup pour cet échange, tous les deux. Serge Guérin, je rappelle le titre de votre essai, « Si les vieux aussi sauvaient la planète ?» Pour vous, je sens que le point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Et c'est aux éditions Michelon. Merci Serge Guérin et merci beaucoup Romain Petit. Je rappelle que vous êtes consultant au cabinet Alterne. Négo. Allez, à suivre dans quelques instants le portrait du pilote de course de motocross Alex Alétru. Vous le verrez, c'est le premier athlète paraplégique à participer à l'Enduropale. C'est une course sur sable au Touquet dans le nord de la France et il nous racontera son parcours au micro de Charlie Dupio. On se retrouve juste après Double et Oli Brune avec Body Hit sur RFI. C'était Double et Oli Brune avec Body It, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Il s'appelle Alex Alétru, il a 34 ans, il est paraplégique depuis l'âge de 20 ans suite à un accident de motocross en compétition. Malgré son handicap, en février dernier, il s'est fixé un défi, l'Enduropale. C'est une célèbre course sur sable au Touquet dans le nord de la France, à laquelle ont participé d'ailleurs 1300 pilotes, tous valides. Notre reporter Charlie Dupio l'a rencontré après la course, près de Dunkerque.
Alors, du coup là on a la moto, elle a roulé déjà un petit peu. Hein. Donc après on met les lunettes.
Voilà. Les lunettes c'est pour éviter le sable.
En fait on est sur un circuit de sable où il y a énormément de projections. On roule et il y a du vent, il peut pleuvoir. Donc on a toujours, on appelle ça un masque qui permet de protéger les yeux. Hop là. Là, on a enlevé la béquille. On va monter sur la moto. Ah. Alors, la moto se met en route.
Donc vous êtes monté dessus.
Voilà, prêt à démarrer. Il y a juste à accélérer. J'ai démarré la moto grâce à mon père, parce que mon père était passionné. Du coup, je l'accompagnais aux entraînements. Donc évidemment, je suis tombé très vite amoureux de ce sport. Et l'adrénaline, l'équilibre, cette sensation de faire corps avec la moto. J'ai eu ma première moto vers 8-10 ans et donc j'ai commencé, ça m'a plu. Et j'ai pu intégrer le championnat régional, le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde.
Et vous êtes devenu un athlète professionnel ?
Un athlète de haut niveau, effectivement. C'est pas une vie comme les autres à 16-17 ans parce que à ce stage-là, on est plutôt à l'école ou étudiant en train de sortir ou ce genre de choses. Moi, j'étais avec un régime spécifique, des entraînements bien calibrés, des responsabilités déjà à cet âge.
Et comment ça se passait justement l'école ?
Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans parce que je pouvais plus concilier sport et études à la fois. Je voyageais 250 jours par an et l'école devenait plus possible pour moi. J'ai fait le choix avec mes parents de pouvoir arrêter les études. Ce qui était assez courant, moi j'étais l'un des rares encore à aller à l'école à 15 ans. Hein. Beaucoup de pilotes à 12-13 ans arrêtaient déjà l'école.
Et donc tout ça jusqu'à votre accident en 2010 lors de championnat du monde en Lettonie.
Exactement, le 27 juin 2010, ma vie bascule où je perds l'usage de mes jambes et je passe de pilote professionnel à personne handicapée. J'étais sur une bonne course, hein, mais voilà, une chute pas forcément spectaculaire, mais avec de très lourdes conséquences. Sur le troisième tour de la course, je chute violemment. Tout bascule parce que directement, je ne sens plus rien.
Parce que, en fait, c'est votre colonne vertébrale qui a été endommagée pendant l'accident.
Exactement. Je me suis cassé la colonne vertébrale, ouais. Je me retrouve paraplégique. Donc, je perds l'usage de mes jambes à 20 ans, ce qui est dramatique. Donc, rapatrié en France, les médecins me prédisent un fauteuil à vie. Malgré la situation, je décide de ne pas me résigner à un diagnostic pessimiste des médecins. Et donc je pars au combat pendant presque 2 ans en rééducation. Où au bout de quelques mois, j'ai les prémices de quelques petits muscles qui commencent à récupérer sur la cuisse de gauche, de droite. Et ensuite une première victoire où j'arrive à me mettre debout dans l'eau. Alors ça paraît pas grand chose pour des valides, mais pour moi me mettre debout dans l'eau c'était waouh, super, c'était une énorme victoire. Et donc là je développe avec un orthoprothésiste des attelles qui vont me permettre de pallier à mes muscles qui sont paralysés. Donc des attelles en carbone. Et avec ça, finalement, au bout de 2 ans, j'arrive à me mettre debout et marcher avec des béquilles et des attelles 200, 300, 400 mètres.
Là, vous les avez, vos attelles ?
Oui.
On les voit à l'arrière de la jambe, en fait.
Exactement. Ça tient le mollet et la cheville. Donc ces attelles, ce sont mes jambes. Sans ça, je ne peux pas faire grand-chose. Donc quand je les enlève, en général, je suis en fauteuil roulant.
Allez, les quelques secondes qui précèdent le départ, tous les pilotes sont là, les pilotes de la première ligne qui vont se battre pour la victoire. Et ce départ, toujours le moment légendaire de cet Enduropale du Touquet. 15 secondes, c'est parti.
Et après, j'ai eu l'envie de passer encore une étape supérieure, remonter sur une moto et donc faire le départ de l'Enduropale du Touquet.
Donc ça, c'était en février.
Exactement, le 4 février dernier.
Sur la plage du Touquet, cette immense ligne droite qui commence ce circuit de plus de 13 km. On est parti pour 3 heures de course, mesdames et messieurs.
Pourquoi vous étiez fixé ce défi-là ?
Parce que pour moi, remonter sur une moto, c'était boucler la boucle. J'ai toujours été pilote de moto et après l'accident, j'ai toujours voulu faire l'Enduropal du Touquet, une course qui était importante pour moi parce que je n'ai jamais pu la faire. C'est une course dans la région. Je suis de la région. C'est un événement qui est dingue. 600 000 personnes, spectateurs. Et je suis très heureux d'avoir pu y arriver parce que sur le papier, c'était pas gagné, je peux vous le dire. Donc on a développé une moto pour que je puisse rouler malgré mon handicap. Donc ça a été beaucoup de préparation. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours où je me suis entraîné aux procédures de départ, lâcher les gaz au bon moment, me mettre sur la bonne position sur la moto, etc. Donc j'ai passé beaucoup d'heures ici, ouais.
Donc quand vous vous entraînez, vous allez là sur cette ligne droite qui est du sable mais pas non plus très profond, oui. Et vous foncez.
Voilà, c'est ça. Du coup, je me suis entraîné à faire ces lignes droites. Ce qui est déjà pas facile, ce qui est un exploit parce que j'ai perdu 80% des muscles des jambes. Donc être sur une moto et essayer de tenir en équilibre, c'est déjà pas facile pour moi. Donc je n'ai aucune sensibilité dans les jambes, mais j'arrive tout de même à rouler.
Et là, vous roulez à quelle vitesse quand vous vous entraînez ici ?
Là, ici, on a à peu près 90 km/h quand je passe. Donc voilà. C'est vrai que quand on me voit en moto, le handicap n'est pas forcément visible parce que je suis debout sur une moto. D'apparence, on voit rien. Alors que quand je suis hors de la moto, je suis soit en fauteuil, soit en béquille. Et donc, il faut toujours trouver des solutions. Et c'est vrai que ça se voit du coup assez fort. Le handicap est visible, du moins.
C'est, il me semble que c'est Axel Alétru, ce serait
Axel
Alétru,
exactement,
qui était au départ. Axel, ancien pilote de motocross, qui a subi un terrible accident à l'âge de 20 ans, qui est devenu paraplégique, qui s'est donné le pari cette année d'être le premier pilote paraplégique à prendre le départ du Touquet avec son chasuble orange fluo.
Est-ce que vous, il y a eu une difficulté à assumer cette étiquette de personne handicapée ?
Déjà, je me bats pour ce mot handicap. Je trouve que le mot handicap est un peu entre guillemets dévalorisant. Quand on pense à handicap, on pense tout de suite à, indirectement, à une personne qui malheureusement ne peut plus faire grand chose, qui est bloquée chez elle, etc. L'autre jour, j'étais à l'étranger et le ministère du handicap s'appelle People of Determination.
Dans quel pays ?
Aux Émirats Arabes Unis. Et je trouve que finalement, on est tous des personnes déterminées à retrouver une vie la plus valide possible. Et donc finalement, c'est ce mot-là qui me définit le mieux, je trouve. Personne déterminée avec un handicap et qui se battent au quotidien.
Une personne déterminée, voilà pour ce joli message d'espoir pour terminer, signé Alex Alétru. À noter d'ailleurs que son prochain défi sera la course de Paris-Roubaix en amateur en 2025, cette fois-ci à vélo. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Lundi, à la même heure, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour parler de la crise du logement à cause de la flambée de l'immobilier, notamment en Europe et aux États-Unis. Et résultat, vous le verrez, de plus en plus de personnes vivent dans des campings dits résidentiels. Qui sont ces habitants des caravanes ? Réponse lundi prochain. Nous, on se retrouve vendredi et sur notre appli Pure Radio, bien sûr. D'ici là, bon week-end à l'écoute de RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.